Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Fou d'histoire pour donner la parole à ceux à celles qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui se repaissent d'histoire et qui plongent dans le passé pour construire leur œuvre. C'est Atahualpa avec Civilisation. Avec un Z. C'est Enrich pour HHHH à 4H. Laurent Binet est fou d'histoire parfois. Bien sûr, au moment de raconter, rien ne se passe comme prévu. Mais il sait nous convaincre. C'est sans doute ça, la 7e fonction du langage. Il a l'art de mettre l'histoire en perspective, sans et avec maniérisme, pour titiller de bien belles formes littéraires, dont le roman épistolaire.
Ce 12 août.
La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. Votre lettre sévère m'aurait effrayée, madame, si par bonheur je n'avais trouvé ici plus de motifs de sécurité que vous ne m'en donnez de crainte. Ce redoutable monsieur de Valmont, qui doit être la terreur de toutes les femmes, paraît avoir déposé ses armes meurtrières avant l'entrée dans ce château. Loin d'y former des projets, il n'y a pas même porté de prétention. Et la qualité d'homme aimable que ses ennemis mêmes lui accordent disparaît presque ici pour ne lui laisser que celle de bon enfant.
Vous êtes diabolique, maîtresse. Mais y a-t-il plus de ces mécréants qui vous haïssent? Pourtant, ils ont été vos amis.
Ils ont été, ils le sont encore, ils le seront à jamais. Et si ma haine ira à eux, leur amour ira à moi.
Dieu vous entende, maîtresse. Dieu vous entende.
Les liaisons dangereuses. Un film époustouflant avec que des fautes d'accord.
Dieu vous entende. C'est une adaptation des Liaisons dangereuses. C'est Liaisons dangereuses, radio diffusée en 1957, avec un petit clin d'œil à Les Nuls, bien sûr, qui s'amuse des Liaisons dangereuses. Bonjour Laurent Binet.
Bonjour.
Vous avez, vous aussi, offert aux lecteurs, aux lectrices, un roman épistolaire. Mais en faisant ça, vous inscrivez dans une vieille démarche. Pourquoi ce choix du roman épistolaire ?
Ben, l'idée première, c'était de faire un roman policier, et je me suis dit que je connaissais peu de romans policiers épistolaires, et pourtant je me suis dit que le mariage de la démultiplication des narrateurs, en quelque sorte, avec l'enquête policière, pouvait donner quelque chose d'intéressant pour le lecteur, sachant que là, dans l'archive que vous avez donné, c'est intéressant. Le principe de la démultiplication des locuteurs, c'est que chacun peut mentir, ou en l'occurrence, chacun peut se tromper. Là, la présidente de Tourvel, elle se trompe lourdement, et donc ça permet au lecteur de se retrouver dans une position dans le roman policier. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le narrateur non fiable. Et donc en fait, si on utilise une vingtaine de narrateurs, alors il y a 20 narrateurs non fiables, et donc ça met le lecteur en état d'alerte permanente. Et donc je trouvais que c'était ce mariage était une idée intéressante.
Ce roman, c'est Perspective, publié chez Grasset, avec un jeu évident, et vous venez de l'évoquer, Laurent Binet, sur le qui parle. Donc il y a tous ces narrateurs, mais le roman s'ouvre quand même par une préface où, j'ai envie de dire, un autre narrateur s'amuse de la démarche historique avec un petit clin d'œil sur les sources. Parce qu'à un moment, il faut bien les retrouver, ces lettres.
Oui, bah en fait, cette fausse préface qui est signée B, qui joue sur l'ambiguïté de Binet et de Henri Bell, en fait, le vrai nom de Stendhal, parce que cette préface a été écrite à la manière de Stendhal. Cette fausse préface vaut pacte de lecture pour signaler qu'il s'agit d'un roman épistolaire, puisque dans tout bon roman épistolaire qui se respecte, il y a cette préface menteuse qui prétend avoir retrouvé un paquet de lettres dans une vieille échoppe ou dans un vieux coffre. Et donc, pour moi, c'est toujours important pour moi de poser le pacte de lecture. Voilà. Donc là, le pacte de lecture, c'est un roman épistolaire, c'est une fiction. La subtilité étant que le pacte est posé par la préface qui prétend ne pas l'être. Mais comme toute bonne préface de roman épistolaire fictif, qui se respectent.
Oui, vous moquez un peu des historiens, des historiennes dans la recherche des sources.
Pas du tout.
Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que dès qu'il est question de sources et notamment des correspondances, bien souvent, il n'y a qu'un côté. Enfin, c'est dur de réunir les questions et les réponses. Mais alors là, avec autant d'intervenants, oui, ce serait complètement impossible. Et oh, c'est formidable, le narrateur trouve dans une échoppe l'intégralité de la correspondance,
oui,
de tous les échanges.
L'archiviste a fait du très bon travail.
Tout était déjà là. Dans cette volonté d'une narration qui n'est pas complexe, enfin qui se veut complexe parce que c'est ça qui est génial, mais qui en réalité nous conduit par la main sur une intrigue policière assez folle, il y a le titre sur lequel il faut s'arrêter, Perspective. Parce que ce Perspective, on l'entend pas à l'oral, à la radio, mais il est au singulier avec un S au pluriel. Pourquoi ce jeu sur Perspective singulier pluriel ?
Ben, en vérité, j'arrivais pas à trancher entre le singulier et le pluriel. J'arrivais pas à trancher entre les deux sens du mot. Le premier sens étant relatif aux lois de la perspective en peinture, puisque mon intrigue policière se passe dans les milieux de la peinture à Florence au XVIe siècle. Et le pluriel illustrait en quelque sorte la multiplicité des points de vue liés au choix du registre épistolaire et à cette démultiplication des correspondants.
Vous nous présentez cette Florence que vous explorez, Laurent Binet, parce que ce n'est pas la Florence glorieuse qui est la plus souvent présentée. On est sur le juste après.
Oui, c'est déjà le chant du cygne. Enfin, c'est le crépuscule de la Renaissance en quelque sorte. Et c'est plus Laurent le Magnifique, c'est plus Donatello, c'est Cosimo, Côme de Médicis. Et alors, c'est quand même Florence représente encore quelque chose, même si elle s'est fait culturellement, elle s'est fait doubler par Rome en fait. Mais il y a cette espèce de crépuscule représenté par ce courant pictural qui s'appelle le maniérisme, qui est justement ce moment où, après la découverte de la perspective et après qu'on se soit rendu compte que la peinture arrivait à un degré de perfection dans l'imitation du réel, eh ben on est un petit peu perplexe et on essaie de dépasser ce stade de la perspective. Moi, ça m'a fait penser aux peintres à l'époque de l'invention de la photographie, en fait. Hein, l'invention de la photographie, du coup, ça donne l'impressionnisme, en quelque sorte. Finalement, on va de nous-mêmes flouter, ou Picasso, etc., l'art abstrait. Là, on va commencer à tordre la perspective, on va faire flotter les corps dans le cadre. On va essayer de s'affranchir de ce qui a été, bon, quand même, la plus grande découverte, je pense, la plus grande découverte de l'histoire de la peinture. Donc c'est ce moment un peu incertain, ce moment un peu crépusculaire, et puis ce moment où là, tout le monde commence à tirer la langue, parce que c'est la onzième et dernière guerre d'Italie. Ça fait quand même plus de 100 ans que l'Italie est le terrain de jeu et le champ de bataille des deux grandes puissances que sont l'Espagne et la France. Et bon, la France va finir par perdre.
Eh oui, ne dévoilez pas la fin. Non, c'est pas juste tout ça le propos du roman. Nous sommes en 1557 dans le roman. Et il y a ce jeu sur le temps et sur l'histoire. C'est de l'histoire parce que nous sommes en 1557. Au sens où c'est du passé, mais à l'intérieur même de cette réflexion de 1557, ces gens-là réfléchissent eux-mêmes à leur passé, à l'évolution de l'histoire de l'art. Il y a ce va-et-vient continu dans les correspondances où on cherche un petit peu le avant pour comprendre le présent, déjà.
Oui, vous avez raison, oui, c'était une espèce de mise au carré, de perspective au carré, en quelque sorte. Oui, parce que comme je vous disais, il y a cette dans les moments de crise, on est plus dans l'analyse. Là, on est moins dans l'euphorie, on est dans l'analyse, et il y a cette nostalgie de l'époque glorieuse, de la Sainte Trinité. Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, même si Michel-Ange, qui a vécu 90 ans quasiment, Michel-Ange est encore vivant et finalement va enterrer un par un quasiment tous ses disciples maniéristes, dont à commencer par Pontormo, donc, qui est le point de départ du récit.
Oui, parce que Michel-Ange est présent, mais c'est un vieux Michel-Ange, c'est Michel-Ange vieillard, d'où l'intérêt de réfléchir à son passé. Et puis, il y a Pontormo. Comment l'avez-vous rencontré, ce peintre ?
En plusieurs temps, en fait, je me suis dit qu'au début, j'avais pensé à situer mon action à l'époque de Laurent le Magnifique, et l'enquêteur aurait été Brunelleschi, l'inventeur de la perspective. Donc la trace de cette première intention est restée dans le titre. Mais je me suis dit quand même que Vasari, l'auteur de la première grande histoire de l'art, celui qui a écumé toute l'Italie pour observer les tableaux, avait les qualités d'un enquêteur. Et donc le choix de Vasari comme enquêteur a déterminé l'époque. Et je me suis rendu compte aussi que Cosimo de Médicis, c'est un personnage très intéressant. Moi, Mon premier rapport avec Cosimo de Médicis, c'était quand j'étais lycéen, j'avais Lorenzo Accio au programme. Et Musset, à la fin de Lorenzo Accio, Alexandre de Médicis se fait assassiner et Lorenzo Accio se rend compte, le Lorenzo Accio de Musset se rend compte que l'assassinat n'a servi à rien parce qu'il est remplacé par Cosimo, qui est pareil finalement. Hein. Et en fait, pas du tout. Cosimo a été un homme politique très très intéressant dans une situation politique très complexe. Et donc, ça m'intéressait de placer l'intrigue à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai vu que il y avait un personnage intéressant, c'était la fille du duc, Maria de Médicis, qui avait eu un destin tragique et intéressant, mais que la même année, il y avait eu la mort de ce peintre au Pontormo, et je me suis dit que c'était plus intéressant de centrer mon intrigue sur un peintre pour évoluer dans les milieux de la peinture plutôt que sur la fille du duc. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. En fait, c'était le choix, la recherche du choix de la victime, parce que je vous avoue en toute honnêteté que Pontormo, je ne connaissais pas.
Ben oui, c'est ça qui est toujours très intéressant dans la démarche que vous faites de créer un roman historique, c'est de nous conduire à nous intéresser à des hommes, des femmes qui sont parfois en marche. C'est le cas de Marie de Médicis, qui est la fille, vous la saisonnez hein, quand même dans Perspective Laurent Binet, mais elle est fascinante hein, comme personnage, elle est extrêmement profond et complexe et tellement victime. Et puis, il y a ce peintre, Pontormo.
Pontormo donna dans un excès de mélancolie. Et pour faire au naturel les figures du cœur de Saint-Laurent noyées dans l'eau du déluge, il conservait des cadavres dans des auges pleines d'eau pour les faire gonfler et empester de la puanteur tout le voisinage. Donc c'est là un des traits du portrait d'un homme constamment associé à la mort, vivant dans la familiarité de la mort, la sienne, celle des autres, et peut-être celle même de la peinture. L'un des paradoxes de cette familiarité avec la mort, c'est que Pontormo la peint, la représente, sous des traits et avec des couleurs parfaitement inhabituelles. Des couleurs roses, bleues, bleu pâle, vermillon, des couleurs aiguës et acides que l'on attendrait plutôt dans des scènes de joie. Or, ce point me paraît désigner le rapport qu'il y a entre la mélancolie d'une part et d'autre part le paradoxe, le retournement, l'ambivalence, le recours aux extrêmes.
En 1990, dans Les Chemins de la Connaissance sur France Culture, Yves Ersant, historien, réfléchissait autour de l'œuvre de Pontormo. Laurent Binet, ce personnage, vous l'avez choisi, c'est un acteur. La question des sources se pose, alors il y a ces sources fascinantes, cette correspondance retrouvée par hasard absolument complète. Et puis, il y a les sources que vous avez pu utiliser, vous en tant qu'auteur, Laurent Binet, sur Pontormo. Il y a des choses qui restent ou...
Ben oui, bien sûr. Il y a déjà ce qu'en dit Vasari, ce qui était ma source première. Je me suis beaucoup appuyé sur l'histoire des peintres de Vasari. Et le chapitre sur Pontormo, je le connais presque par cœur maintenant. Ce que dit cet historien est très vrai. Il y avait cette mélancolie chez Pontormo. L'histoire, c'est moi, si j'ai bien compris, c'est peut-être une légende urbaine, l'histoire des cadavres noyés qui faisaient gonfler. Mais enfin, c'est vrai qu'il a peint ce déluge. Il y a aussi une source tout à fait étonnante. C'est un petit journal écrit par Pontormo lui-même, qu'il a écrit dans la dernière année de sa vie, d'une trivialité qui est tout à fait touchante, où il racontait en gros avec qui il déjeunait, avec qui il dînait, il se plaignait beaucoup de son assistant Naldini, il se plaignait de tout le monde, de ses amis, de Bronzino qui était son grand ami. Il était extrêmement, on voyait que c'était un caractère à la Michel-Ange, extrêmement grognon, extrêmement Et aussi ce qui était burlesque, c'est qu'il racontait ce qu'il mangeait, il racontait aussi ce qu'il évacuait, ses problèmes intestinaux, un petit peu à la Montaigne en fait. Donc c'est d'une extrême trivialité. Il y a très peu de considérations. Il y a pas de considérations artistiques. Tout ce qu'il dit, c'est aujourd'hui je suis allé à San Lorenzo peindre ces fameuses fresques. J'ai peint un bras, j'ai peint une épaule, j'ai peint une jambe. Bon voilà. Ce qui a été génial pour moi, c'est qu'à force de lire, de relire ce document, finalement, j'ai trouvé des indices qui m'ont servi dans mon intrigue policière. Puisque bon, mon point de départ, c'est qu'il est mort assassiné, on l'a retrouvé au pied de ses fresques. Et il avait, ça c'est vrai, d'ailleurs il en parle dans son journal, hein, il avait fait dresser des palissades par l'ouvrier qui lui servait un peu de factotum, Marco Moro, qui est un autre personnage du livre, pour que personne ne puisse voir ses fresques avant qu'il les ait finies. Il était très jaloux de ses... Il souhaitait vraiment garder secret son travail, comme beaucoup d'artistes. Et Vasari, quand il raconte ce que je suis en train de vous raconter, explique que finalement, quand il est mort, Bronzino a terminé le travail. Et quand les fresques ont été dévoilées au public et ont été inaugurées, le public a été déçu parce que son style était passé de mode, parce que c'était plus la mode, c'était tous ces corps entassés, tout nus, très à la Michel-Ange en fait, et puisque le but des fresques c'était de rivaliser avec la chapelle Sixtine, et la chapelle Sixtine n'était plus à la mode, au point que tout à l'heure on parlait de nostalgie, de l'âge d'or de la Renaissance. Oui, Michel-Ange, il ressentait très fort cette nostalgie parce que on voulait détruire sa chapelle Sixtine. Le pape, l'horrible Paul IV, qui était un inquisiteur, qui était plus du tout les papes mécènes comme Jules II, le pape voulait détruire la chapelle Sixtine, et le compromis qui a été trouvé pour sauver la Sixtine, ça a été de cacher les corps nus des fresques du jugement dernier et de l'ensemble de la chapelle. Donc en effet, vous avez raison de dire que c'est plus la Renaissance glorieuse. Mais bon, pour revenir à Pontormo, qu'est-ce que je disais, je sais plus.
Nous étions à Pontormo avec cet homme qui avait fait dresser ses palissades
pour
pas qu'on voit son
œuvre. Voilà. Et en fait, Vasari explique que on découvre les palissades et que après sa mort, enfin on découvre les fresques et que on trouve ça bof en fait. Et dans le journal de Pontormo, il est dit à deux reprises que Pontormo reçoit la visite du duc, et et la deuxième fois, c'est reçoit la visite du duc et de la duchesse. Donc, il est faux de dire que personne n'avait vu ces fresques avant sa mort. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé, que j'ai intégré dans l'enquête policière. Vasari, mon enquêteur, a tenu compte de cette contradiction entre le journal et ce qu'il croyait savoir sur cette palissade et ces fresques jamais vues.
Laurent Binet, vous êtes amusé à faire ce livre Perspective parce que, en tant que lecteur, on s'amuse à lire. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de clins d'œil et surtout, il y a une construction. C'est en équilibre et tout tient et c'est magique. Mais combien d'intervenants dans cette correspondance?
Il y a une vingtaine de correspondants. Il y en a 18 qui écrivent et si on compte ceux qui reçoivent des lettres, le pape, par exemple, il reçoit une lettre de la duchesse, il écrit pas, il y a une vingtaine, en gros, une vingtaine. Oui, c'est vrai que c'était une difficulté supplémentaire de faire un roman épistolaire qui emprunte un peu au roman russe, en plus.
Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages, beaucoup d'humour, je le disais. Et puis, ces personnages qui, dans leur... vie dans leur réalité historique et non pas le personnage de roman, ont une réelle épaisseur. Vous avez cité Vasari, donc celui qui nous a tant livré sur ses peintres. Ce sont des personnages au destin incroyable. Déjà, en tant que tel, chacun de ces 20, on pourrait creuser. Et vous, et c'est ça aussi qui donne envie toujours d'en savoir plus, c'est qu'à chaque fois, nous sommes juste à côté, nous les suivons et on voit tout un univers qui se développe. Nous ne sommes pas uniquement dans le palais ducal.
Non, et c'est vrai que ma première idée, c'était, un roman policier, les meilleurs romans policiers sont toujours un peu des huis clos, les Dix Petits Nègres. Et donc là, moi, mon idée, c'était, mon huis clos, ce sera Florence. Alors, ce sera un huis clos un peu élargi, il y aura quand même des extérieurs. Mais en fait, par le choix du registre épistolaire, Florence, on déborde de Florence, puisque on va à Paris ou à Blois, pour retrouver Catherine de Médicis, on envoie des lettres à Rome, à Michel-Ange, etc., etc. C'est vrai que j'ai toujours adoré les personnages historiques en tant que tels, et puis adoré les utiliser en fait, tout simplement. Et alors c'est vrai que vous avez raison, Vasari passe pour l'inventeur de l'histoire de l'art. Catherine de Médicis, c'est l'une des plus grandes femmes d'État qui ait existé, et même l'un des plus grands hommes et femmes d'État confondus en fait. Mais il y a aussi, en fait, aucun de mes personnages n'a été inventé, c'est-à-dire que le broyeur de couleurs Marco Moro Moreau, c'est Pontormo qui en parle dans son journal, ou l'assistant Naldini. Naldini va devenir un peintre tout à fait reconnu, qui a des très beaux tableaux à, dans l'église de Santa Maria Novella, par exemple, à Florence. Donc le moindre, tous les personnages, les connus et les moins connus, tous ont, ont vraiment existé.
Et tous sont dans Perspective de Laurent Binet. Pavane dans l'album Musique à la cour de Catherine de Médicis. Laurent Binet, Catherine de Médicis, diantre. Personnage fascinant, et vous l'avez bien dit, femme d'état remarquable, qui a souffert d'une image très sombre, construite a posteriori bien souvent, ou en tout cas de son vivant, par ses ennemis, mais là c'est logique. Catherine de Médicis, vous en faites un personnage extrêmement complexe, mais très très drôle. Là, le romancier se fait plaisir. Nous ne sommes pas dans la démarche historique, bien sûr, mais dans le vecteur de l'histoire. Vous allez très loin en poussant la caricature qu'a été faite par le passé de Catherine de Médicis.
Ben, disons qu'en tant que Florentine, il me semblait pas absurde de faire de Catherine de Médicis un personnage machiavélique et machiavélien. qu'elle a été à bien des égards. Alors oui, la légende noire de Catherine de Médicis qui lui est attachée, évidemment, est liée à la Saint-Barthélemy. Et bon, ben, ça c'est une réalité, c'est pas une légende. Mais c'est le destin de Catherine de Médicis a été quand même tout à fait étonnant. Et en fait, nous, c'est vrai qu'on connaît bien, enfin mieux, sa période de française, de reine de France, mais on sait moins ce qu'a été sa vie d'avant. Et là, moi, je me suis appuyé sur un très bon livre de Marcello Cimonetta qui raconte son enfance et jusqu'à son avènement de reine de France. Et ça a été très tumultueux parce qu'en tant que dernière héritière légitime en ligne directe de Lorenzo de Laurent le Magnifique, eh ben, elle a été pourchassée, elle a été convoitée, elle a été mise en sécurité cachée dans des couvents où elle-même disait qu'elle se nourrissait de viande pourrie. Elle a failli être violée et mise au bordel lors d'une insurrection républicaine. Et puis finalement, elle a été, bon, en gros, enfin, comme toutes les femmes aristocrates de l'époque, elle a été vendue pour épouser même pas le dauphin du trône de France, mais le fils cadet. Et par les hasards de l'histoire, elle s'est retrouvée reine de France et ensuite a régné en tant que régente pendant très très longtemps et a enterré tous ses enfants, tous ces trois rois de France auxquels elle a survécu. Et donc bon, moi, dans mon intrigue, mon approche, c'était mon modèle, le modèle qui m'a servi pour incarner Catherine de Médicis, c'était Merteuil, des liaisons dangereuses, tout simplement, parce que dans son rapport avec Maria de Médicis, la fille du duc qui ouvre, c'est la fille du duc qui ouvre le livre, et la première lettre du livre, c'est une réécriture de la première lettre de Cécile Volange. Donc voilà, j'ai reconstitué un couple Merteuil-Cécile Volange, puisque la fille du duc est promise au mariage, promise au duc de Ferrare. Elle doit épouser le duc de Ferrare, qui est un très très sinistre personnage. Et la première lettre, donc, c'est exactement comme Cécile Volange, Maria de Médicis, qui sent bien que ses parents complotent un peu et qu'on va, on lui cherche un mari. Et donc, Catherine de Médicis, c'est Merteuil, mais c'est plus que Merteuil, puisque elle a des objectifs politiques. Son objectif politique, c'est de reprendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire le trône de Florence, puisque Florence est devenue un duché.
Et puis ça nous permet d'évoquer Machiavel, parce qu'il y a cette lecture toujours historique, même dans le passé, il y a une histoire comme une évidence avec Laurent Binet. Un petit sourire tout à l'heure quand vous avez prononcé le nom de cette ville, Blois, sans doute parce que ce roman Perspective vient de recevoir le prix du roman historique des rendez-vous de l'histoire à Blois. Félicitations.
Merci beaucoup.
Roman historique, était-ce une lecture de l'enfant, Laurent Binet, des romans historiques?
Ah bah assez vite, hein, oui. Bon, je vous dis, c'est la... Lorenzaccio, ça m'a... c'est pas un roman historique, c'est un drame romantique, mais Lorenzaccio m'a de ma première, enfin du bac de français à aujourd'hui finalement, Lorenzaccio m'a suivi. Enfin, il y a eu une continuité. Mon père était prof d'histoire, j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire, et je me souviens au moment d'HHHH, on m'interrogeait beaucoup sur la balance histoire littérature. Bon, mon cœur a toujours balancé entre les deux, et je me souviens que la supériorité qu'on accordait prétendument à la littérature m'a toujours semblé tout à fait discutable. Michelet, c'est aussi génial à lire que n'importe quel roman, et même peut-être plus. Et moi, je me souviens que ma bible à l'époque, c'était l'histoire du Troisième Reich de William Shirer, que je lisais. Enfin, je dis ma bible, en plus, c'est vrai que je le lisais comme une bible, c'est-à-dire que j'ouvrais à n'importe quel chapitre et je lisais un chapitre. Tiens, aujourd'hui, Barbarossa. Tiens, aujourd'hui, les accords de Munich. Et bon, voilà, donc un bon livre historique peut pas plus m'enchanter, en fait.
Oui, mais vous l'avez bien dit, vous avez votre père qui est prof d'histoire, vous avez fait lettres.
C'est
toujours très intéressant. Pourquoi d'ailleurs, quand on est enfant, prof d'histoire, chaque visite dans un musée avec toutes les narrations fait qu'on a envie parfois peut-être de se distinguer, ou quand d'autres font le choix, et c'est toujours très agréable de se plonger dans les passions paternelles ou maternelles.
Non, c'est beaucoup plus trivial que ça. Mes copains étaient en lettres, moi j'étais en histoire, et puis j'ai vu arriver avec un peu d'angoisse les concours de prof d'histoire. En fait, c'est prof d'histoire géo et géographie, je me sentais un peu fragile. Donc ça m'a fait peur, j'ai basculé en lettres, donc vous voyez à quoi ça tient.
Et toujours l'écriture, historien, historienne, écrivent des ouvrages, et donc l'écriture au cœur de cette réflexion, avec, vous l'avez cité, cet intérêt pour la Seconde Guerre mondiale, la réflexion sur le Troisième Reich et ce roman HHHH.
Tout à coup, il s'est passé quelque chose si vite qu'aucune des personnes qui étaient là n'a pu dire exactement ce qu'elle avait vu. Une voiture est arrivée, décapotée, la voiture traditionnelle de l'armée allemande. Un homme s'était lancé, mitraillette au poing. Visiblement, il a tenté de tirer sur la voiture et puis rien. Son arme s'était enrayée. La voiture s'est arrêtée et un autre homme a lancé une bombe sur cette voiture. L'explosion, les cris, le sang, c'était fait. L'attentat contre Reinhard Heydrich avait réussi.
Dans la cour d'honneur du château de Prague, plus de 65 000 personnes ont tenu à défiler devant le cercueil du général Heydrich, vice-protecteur du Reich en Bohême et Moravie, qui, on le sait, fut récemment victime d'un attentat. Le cortège funèbre se dirige vers la gare. Le corps du général Heydrich est transféré à Berlin. L'hommage du Führer dans la salle des mosaïques de la nouvelle chancellerie. Heinrich Himmler prononce l'éloge du disparu.
Ce que nous venons d'entendre, c'est la narration de l'événement historique par Alain Decaux, l'histoire en question au milieu des années 1980, et le document historique, c'est une archive de propagande 1942 pour les funérailles du général SS Heydrich. Vous, Laurent Binet, dans la narration que vous faites d'un événement de la Seconde Guerre mondiale, cet attentat, et puis les conséquences, et puis les personnages, il y a... Non pas la démarche d'historien, parce que vous êtes romancier, mais vous prenez un moment que vous racontez. C'est pas le cas dans Perspective, hein, c'est autre chose. C'est une volonté aussi de jouer sur les différentes formes littéraires pour raconter de l'histoire. Tout peut se raconter de toutes les manières.
Oui, bah, c'est-à-dire que en fait j'aime bien varier à la fois les sujets et les formes, donc ça donne des romans qui se ressemblent peu, même si bon, il y a forcément une continuité puisque l'auteur est le même. Mais enfin les les formes sont différentes et notamment le pacte de lecture est différent puisque là, bon, comme je vous disais, il s'agit de proposer au lecteur un jeu, une enquête, je vous proposais une énigme, une victime, une enquête et bonne chance. Et pour HHHH, c'était très différent. J'avais envie d'essayer de reconstituer dans un événement historique dans, vraiment au plus près de sa véracité. Et le livre s'est donc doublé de cette problématique, de cette interrogation qui était comment est-ce qu'on fait finalement pour raconter une histoire vraie. Donc c'est en effet totalement différent. Mais dans les deux cas, ce qui me semble important, c'est ce pack de lecture pour pas mystifier le lecteur, que le lecteur sache où il met les pieds. La septième fonction du langage est une fiction. Barthes ne s'est pas fait assassiner, Pontormo non plus. Il s'agit d'un roman policier, il s'agit d'un jeu. Par contre, HHHH, là, il s'agit de vous donner autant que possible la véritable histoire. Donc, et tout ça doit être précisé d'une façon ou d'une autre. Alors, ça peut être dans une fausse préface, ça peut être dans dans HHHH, c'était aussi, il y avait quand même une part de jeu où parfois il y avait des fausses pistes où dans le chapitre d'après je disais non, bon là j'avoue, je savais pas, j'ai inventé, mais en tout cas, le peu de fiction qu'il y avait dans HHHH, c'était toujours signalé d'une façon ou d'une autre. Et ça me semble très important pour que... Pour employer un terme, pour reprendre l'idée, une idée force de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Charlotte Lacoste, que la fiction ne devienne pas falsification, en fait. Ça me semble très important, parce qu'on peut pas faire, enfin, j'estime qu'on peut pas faire, on peut pas faire n'importe quoi avec l'histoire, et parce que le spectre du révisionnisme, moi, c'est quelque chose qui me terrifie. Alors, c'est un mot très fort, hein. Mais on voit bien comment, là, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, n'importe quelle légende urbaine, très vite, peut devenir, aux yeux de millions de gens, une réalité. Donc, moi, je veux être très clair avec ça, mais je m'interdis aucune forme et aucun jeu avec l'histoire. Simplement, il faut que les choses soient claires.
Oui, contre ceux et celles qui présentent l'histoire comme une opinion ou comme une fiction qui pourrait être racontée de différentes manières, l'histoire demeure une science et le roman, c'est autre chose. Avec Laurent Binet, que ce soit dans Perspective, dans HHHH ou Civilisation ou d'autres romans, une première démarche qui ressemble à celle de l'historien, c'est la documentation, c'est comprendre les événements, parce que bien sûr, il y a cette part de liberté de l'écrivain, mais ce pacte fait avec le lecteur, faut qu'il y ait quand même une source, une base solide.
Oui, mais c'est-à-dire que si on va chercher le personnage de Napoléon, autant que notre Napoléon fictif ressemble au vrai Napoléon, sinon ça sert à rien. Et donc là, bon, c'était pareil. Je voulais, si vous voulez, c'était à la fois des clins d'œil et des jalons. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, contrairement à, par exemple, Civilisation, où là, Civilisation, c'est une histoire contrefactuelle. Je renversais totalement le cours de l'histoire. Et donc, je larguais les amarres vis-à-vis de tous les événements historiques de l'époque. Enfin, je créais cet effet miroir où je les inversais. Là, les grands événements historiques sont tous à leur place, si vous voulez. Y compris même, et ça me servait même de jalon. C'est-à-dire que je savais que tel mois, Piero Strozzi, qui était en train de descendre avec le duc de Guise avec l'armée française pour essayer de récupérer Naples, tel moment, il devait être autour de Rome à tel moment. Je voulais qu'il y soit. J'avais un autre repère, c'était la grande inondation de l'automne 1557. Quand j'ai vu qu'il y avait cette inondation, je me suis dit bon, il faut que je m'en serve. Je voulais ça m'a excité parce que je me suis dit, bah là, cette grande inondation, ça faisait une boucle avec le déluge de Pontormo. Pontormo qui peignait son déluge. On va terminer par cette grande inondation et on va essayer d'en faire vraiment des scènes un peu dantesques où le Piero Strozzi va essayer de s'échapper dans la cathédrale, etc., etc. Et donc, j'avais des repères historiques. J'écris toujours pour que même si un lecteur connaît pas l'époque dont je parle, il puisse s'y retrouver. C'est-à-dire, j'essaie de lui donner les éléments pour qu'il soit pas perdu. Mais j'écris aussi pour ceux qui connaissent et qui pourront déceler qui pourront repérer des choses qui seront là. C'est-à-dire, s'ils les cherchent, si un spécialiste de la, si un spécialiste des guerres d'Italie cherche des choses dans mon livre, j'espère qu'il les trouvera.
Oui, et ça fonctionne très bien, c'est très généreux, et c'est ce qui fait que le roman historique est un très beau vecteur qui peut conduire à l'histoire, donner l'envie d'en savoir plus en lisant des livres d'historiens, d'historiennes. Quand vous travaillez, vous, Laurent Binet, la lecture de ces ouvrages d'historiens, d'historiennes, mais c'est un passage obligé. Civilisation, je le rappelle, avec un Z, où par effet miroir, tout est inversé. Ce ne sont pas les conquistadors, les Européens qui prennent pied en Amérique, mais c'est l'inverse. Ce sont les Incas qui arrivent chez nous. Dans cette lecture-là, ça nécessite d'être vraiment au carré parce que le faux pas arrive très vite. On parlait des liaisons dangereuses, bah c'est voilà, c'est ces erreurs de liaison. C'est extrêmement délicat de toucher à l'uchronie, de toucher à une correspondance fictive ou alors avec un roman autour d'un attentat pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez peur parfois ?
Ah bah tout le temps, ouais, j'ai toujours peur de faire une bourde, donc c'est pour ça que la documentation me prend des années et que je vérifie. Je suis terrorisé à l'idée qu'un historien me dise ah non mais là il y a une erreur majeure ou qui fasse branler tout l'édifice. Alors certains me disent mais on s'en fiche, c'est un roman, mais non, pas du tout, moi ça je m'en fiche pas du tout. Et alors je touche du bois, mais jusqu'à présent les historiens, j'ai pu avoir des critiques dans les milieux littéraires de certains de mes livres, mais les historiens ont toujours été contents. Donc pour l'instant, je suis content.
Et c'est l'intérêt de tout le monde que l'histoire soit objet de discussion, qu'on en parle, et à travers le roman. Dans cette histoire-là, il y a l'idée d'uchronie. Civilisation, c'est de l'uchronie. Là aussi, on parlait des genres différents, le roman épistolaire, l'uchronie. L'uchronie, univers très dangereux. C'était un plaisir, Civilisation, et surtout la réception de l'ouvrage était très bonne, ce qui veut dire c'est une réponse à une attente d'histoire.
Oui, bah typiquement, je me souviens d'un spécialiste de François Ier qui était ravi parce que il avait trouvé dans mon livre, dans mon roman, la mention d'un ambassadeur de Charles Quint en France de l'époque et que j'imagine est connu de peu de personnes en France, enfin hors des milieux des spécialistes. Et donc, il était enchanté de retrouver un personnage pour qui il avait manifestement de l'affection. Donc, oui, enfin, je pense que c'est bon, c'est tout bête, mais un roman gagne en efficacité à hauteur de sa précision, si vous voulez. Donc j'essaie d'être le plus précis possible et d'éviter, en fait, paradoxalement, d'éviter les fantaisies. En fait, la démarche, évidemment, contrefactuelle, elle est totalement fantaisiste. Mais si je connais pas le nom du chien de Charles Quint, je vais pas l'inventer. Et alors, il se trouve que je le connaissais. C'était c'est Semper, je crois, ou c'est enfin le c'est Sempre, enfin une déclinaison de Semper. Voilà. Donc c'est des petites choses, mais moi c'est des choses qui me rassurent et je trouve que ces petites choses accumulées, c'est des garanties d'avoir un cadre qui soit fiable,
oui,
malgré tout.
Un cadre fiable et également des talents de conteur.
Au XVIe siècle, l'empire Inca n'a plus rien à espérer du monde. Il est immense, ses temples regorgent de trésors, d'or, d'argent, de pierres précieuses, d'or surtout. L'or et l'argent ne sont pas seulement des métaux précieux pour les Incas, mais surtout des métaux sacrés. Alors depuis des siècles, on accumule donc dans les temples, dans les palais, des idoles, des statues, des objets d'or et d'argent. Il est riche à crever, cet empire. Atahualpa règne sur l'Empire du Sud, capitale de l'Empire du Sud, Cajamarca. Le conquistador espagnol Pizarro débarque donc au Pérou. Pizarro, c'est un petit homme sec, mauvais, c'est une teigne indomptable ce type. Il débarque à la tête d'une petite troupe d'une centaine d'hommes, armés de mousquets et de quelques canons. Les Incas ne connaissent pas les armes à feu, et ces armes à feu les terrorisent. Mais tout de même, ils sont 50 000 guerriers sur l'Empire du Sud, sous les ordres d'Atahualpa. Ils pourraient facilement mettre en déroute ces étrangers.
Pissard, comme c'est Pissard. C'est Henri Gougaud qui s'exprimait, conteur, écrivain. C'est sur France Inter en 1979, l'émission La chasse au trésor. Une narration ici. Alors, c'est une narration de l'histoire, avec ses personnages, mais la volonté d'être le plus proche possible de ce qui s'est passé. Dans l'Uchronie, Laurent Binet, mais dans le roman en général, vous avez tous les droits. Vous pouvez inventer tous les personnages, et c'est d'ailleurs beaucoup plus simple, parce que dès lors, vous vous affranchissez des contraintes de la chronologie. Et vous ne le faites pas. Pourquoi il n'y a pas d'invention de personnages, par exemple dans Perspective ?
Non, mais parce que là, visiblement, j'ai une fascination pour l'histoire, ça, ce serait difficile de prétendre le contraire, mais en fait, pourquoi ? Je pense parce que... De toutes les histoires possibles avec un petit H, l'histoire avec un grand H est la seule qui a eu lieu. Et donc, parmi les milliards de combinaisons possibles qui nous ont amené là, là où on en est en 2023, il y a eu qu'un seul chemin. Alors, un chemin très complexe, hein, mais ça me fascine parce que c'est comme bon, c'est les chances. Enfin, c'est une combinaison parmi des milliards. Et puis aussi, ça m'impressionne et ça me terrifie parce que c'est d'une certaine manière, ce qui me fascine dans l'histoire, c'est son côté tragique. C'est-à-dire, ce qui a eu lieu a eu lieu. Dans HHH, j'avais écrit ceux qui sont morts, il leur est bien égal qu'on leur rende hommage aujourd'hui. Bon, il y a l'inéluctabilité de l'histoire. Ça me terrifie, mais donc je suis comme hypnotisé, si vous voulez, par ce. Pour le dire très très simplement, en fait, je suis très sensible au incroyable mais vrai. C'est-à-dire que la réalité dépasse la fiction bien souvent, et je suis toujours absolument fasciné quand je découvre la vie extraordinaire d'un personnage avec ce que j'avais appelé dans un article que j'avais écrit il y a longtemps la plus-value du réel. C'est-à-dire que vous lisez les mémoires de Benvenuto Cellini, qui est un autre personnage de mon roman. C'est extraordinaire, une vie d'aventurier incroyable. Si c'était un personnage de fiction, ce serait déjà extraordinaire. Mais alors, en plus, savoir que, j'allais dire, c'est vrai. Bon, il y a une part de mythomanie chez Cellini. Mais enfin, en tout cas, ce personnage-là, avec sa mythomanie, il a vraiment existé. Et savoir qu'un personnage comme Cellini, qui est tellement truculent, fanfaron, tellement flamboyant, a existé, ça me remplit d'allégresse, en fait.
Et puis, ces personnages que nous citons, Combe, Catherine de Médicis, Strozzi, le maréchal de France, on pourrait en avoir plein, Vasari, Michel-Ange bien sûr, et puis les autres, ceux qui sont beaucoup moins connus, Marco Moreau, et l'ouvrier, le broyeur. Alors là, Laurent Binet, en les mettant en scène au même titre que tous les autres, c'est aussi une démarche, qui n'est pas du tout militante, c'est pas le mot, hein, mais c'est la volonté de saisir une société dans son ensemble. Ce n'est pas l'histoire des puissants.
Oui, exactement. C'est-à-dire, enfin, si on veut essayer de reconstituer une société à un moment donné et qu'on s'intéresse aux 10% du sommet de la pyramide, on rate les 90%. Donc c'est difficile de faire l'impasse sur les classes populaires. Et il se trouve là que grâce au journal de Pompe-Tormaux, j'avais une entrée vers les classes populaires avec cet ouvrier qui lui servait de broyeur de couleurs, qui s'appelait Marco Moreau, et sur lequel, alors pour le coup, j'avais très peu d'informations. Mais alors là, bon, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait aussi ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai fait une espèce de mise en perspective en abîme, c'est-à-dire que Marco Moreau, j'en ai fait l'héritier des ouvriers qui s'étaient révoltés plus de 100 ans auparavant dans une révolte qui est restée célèbre, parce que raconté par Machiavel, qui s'appelle la révolte des Tchompi, qui passe pour aux yeux des marxistes et de beaucoup d'historiens pour la première révolution prolétarienne de l'histoire, puisque c'est en 1378, c'est l'époque donc des prémices de la préhistoire de la société industrielle. C'est l'industrie textile qui commence à se développer la société marchande de la Florence, donc de cette époque. Et quasiment à la même époque, donc il y a eu cette révolte qui a donné lieu à une prise de une révolution, une petite révolution qui a duré quelques semaines, à peine 2-3 mois, pendant laquelle les ouvriers ont pris le pouvoir. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'une de leurs premières revendications, c'était le droit de se réunir. Et donc, je trouve ça intéressant que dès le début, dès la naissance du capitalisme, hein, vraiment dès la naissance de ce proto-capitalisme, de façon concomitante, est apparu un proto-syndicalisme, en fait, des revendications syndicales. Et donc, Marco Moro, je l'ai calqué sur cette révolte des Tchompi et je lui ai mis dans la bouche ce que Machiavel fait dire à ses ouvriers en révolte presque 150 ans auparavant. Donc voilà comment j'ai procédé pour ce personnage. Et quant à Naldini, les problématiques politiques et sociales changent pas tellement finalement. Le Marco Moro donc choisit lui cette voie de la cette voie du collectif, en fait. Il essaie de fédérer les ouvriers pour revendiquer, pas forcément pour faire la révolution, mais enfin pour revendiquer des droits, des augmentations de salaire, pour constituer une force qui pèse, une force sociale qui pèse. Et Naldini, lui, choisit la solution individuelle. Il va essayer de, bon, plutôt à la Balzac, quoi, de grimper dans l'échelle sociale, quitte à trahir et à balancer ses petits camarades quand il faut. Et bon, d'une certaine manière, ces deux personnages incarnent Naldini, qui est orphelin, qui a été élevé, donc qui a eu la chance de se retrouver apprenti de Pontormo, qui n'a pas le talent de Michel-Ange, mais qui va devenir un peintre très honnête. Mais ces deux personnages incarnent des possibilités infimes, mais réelles quand même, de voie de sortie, en fait. Comment est-ce que... Ça, c'était une question récurrente qui est apparue au fur et à mesure que j'écrivais mon livre et que je déployais mon roman policier. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir à une époque donnée quand les passages sont très, très étroits d'une catégorie sociale à une autre, voire presque impossible, mais jamais tout à fait impossible. C'est-à-dire qu'il y a aussi on n'a pas parlé du personnage de Plotianelli, qui est le personnage de bonne sœur, qui était à la fois bonne sœur et peintre. C'est très étonnant dont parle Vasari dans son histoire des peintres. C'est très étonnant si on me l'avait pas dit, si j'avais pas la preuve qu'elle existait, j'aurais pas parié sur le fait qu'une bonne sœur pouvait être peintre en 1557. Donc, oui, ça me semblait très important de pas rester au sommet de la pyramide, évidemment, si je voulais recréer, reconstituer la Florence du XVIe siècle.
C'est inéluctable. J'espère que tout le monde aime ça.
Mmh.
Oui, qu'est-ce que je disais? Ah oui, la Chine, l'URSS, évidemment, l'Allemagne de l'Est, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, non, pas de vin, merci, la Hongrie, et j'en passe.
La Pologne.
La Pologne. Les deux tiers de l'humanité sont déjà communistes. Et ce n'est qu'un début. Merci. Et si les Français disent non dimanche au référendum de De Gaulle, la France aussi deviendra communiste.
C'est trop beau.
Forcément, le système de production capitaliste s'effacera devant le socialisme, comme la bourgeoisie avait remplacé la noblesse en 89, qui elle-même avait succédé au système féodal.
Non mais c'est dialectique.
C'est délicieux.
Tout est politique.
Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. C'est le film de Jean-Jacques Silberman en 1993. Laurent Binet, c'est un peu votre cas.
Oui, tout à fait.
C'est l'intérêt, on l'évoquait, pour les petites gens, le mouvement révolutionnaire, l'organisation. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans votre enfance, par votre père, communiste, qui conduire à... On le sait bien, non pas une lecture différente de l'histoire, historiens, historiennes ont des méthodes, c'est sérieux, normalement, il n'y a pas de souci, mais à des centres d'intérêt différents.
Oui, enfin, comme je vous disais, de toute façon, pour... ignorer les classes laborieuses dans une perspective historique de vouloir décrire une société, ça me semble une erreur méthodologique. Ensuite, oui, il y a peut-être quelque chose d'affectif qui remonte à mon enfance et qui m'habite encore aujourd'hui, qui fait que j'ai toujours un œil vers le bas et vers les pauvres, quoi. Et puis c'est vrai que bon, alors là, en effet l'avènement du communisme n'a pas eu lieu, ou alors ça a déraillé, et donc bon, on peut pas dire que ça a été un grand succès, mais disons l'idéal communiste, c'est encore quelque chose auquel je crois, et je déteste quand on met sur le même plan, je ne nie absolument pas que le stalinisme et que le communisme a engendré des systèmes totalitaires très durs, mais à la base on peut pas mettre sur le même plan nazisme et communisme, parce que d'un côté il y a un rêve d'égalité, de l'autre un rêve d'inégalité des races. Les projets sont antagonistes. Ensuite, la réalisation, on sait bien que la réalisation des Lumières a aussi donné le colonialisme, hein, au nom des Lumières. On pourrait en parler des heures, hein, mais.
Non, mais c'est toujours intéressant de mettre en place le fait que l'on est issu d'une société, que l'œuvre, la production, que ce soit pour les historiens et les historiennes, que ce soit pour les romanciers, reflète la société, les préoccupations du moment. J'en entends certains qui crient à la République, mais pourquoi faire la République si le pouvoir est aux mains de quelques-uns au détriment de tous les autres ? C'est ce que vous écrivez dans Perspective, nous sommes en 1557.
C'est de Cellini, mais c'est tiré de ses mémoires. Hein. C'est quasiment une citation de Cellini, c'est-à-dire c'est ce que lui disait déjà à l'époque.
Donc cet écho du XVIe siècle à aujourd'hui, voilà, fait réfléchir, et on le voit bien malgré tout, et c'est peut-être un peu cette longue histoire de la construction, des luttes, de voir que c'est bien difficile. Et au XVIe siècle, on sent ces tensions tellement fortes, vous l'avez évoqué, Laurent Binet, avec ceux qui choisissent, on va dire, la compromission au détriment du bien du plus grand nombre.
Oui, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans cette période de la Renaissance, finalement, c'est que moi je cherche pas, à la base, on me dit toujours, mais alors les échos avec notre époque d'aujourd'hui, de contemporaine, forcément ils seront là, puisque moi je suis un produit de mon époque, donc c'est logique que mes intérêts soient dictés par l'époque dans laquelle je vis, mais enfin je cherche pas consciemment des parallèles, mais c'est vrai que les problématiques sociales, religieuses, économiques, politiques, finalement, elles sont. Si vous cherchez des parallèles, vous les trouverez. Mais je dirais quasiment dans presque toutes les périodes historiques, tous les romans historiques, tous les livres d'histoire.
Oui, c'est ce que vous dites qui est très pertinent. C'est pas la volonté de mettre du présent dans le passé, mais plutôt de prendre conscience à la lecture de ces textes du passé qu'ils font écho à notre présent. Exactement. Parce que les préoccupations étaient déjà les mêmes.
Ouais. Oui, c'est-à-dire, pour revenir à Marx, hein, l'histoire de la lutte des classes, par exemple, ça n'a pas changé. Le fanatisme religieux, alors curieusement, on aurait pu penser qu'on en serait sorti aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les problématiques impérialistes, là c'est plus la France et l'Espagne, mais c'est d'autres pays.
Pour civilisation, c'était l'impérialisme, effectivement. Laurent Binet, bien sûr, il y a ces univers à explorer que vous doublez avec des formes d'écriture qui varient d'un roman à l'autre. C'était une évidence, la correspondance pour le XVIe siècle, le roman narratif pour HHHH, l'Uchronie pour Civilisation. Il y a presque un jeu intellectuel aussi de croisement de la forme et de ce qui est raconté.
Oui, vous avez raison, c'est des croisements, mais par contre, c'était pas du tout une évidence. Le choix épistolaire, c'était pas une évidence parce que le genre épistolaire est plus 18e siècle que 16e siècle. Donc, c'était vraiment une volonté d'hybridation et qui se retrouve dans le style. Le style est un pastiche du XVIe siècle, mais aussi un pastiche des romans épistolaires du XVIIIe, qui est nourri de citations cachées, discrètes, des liaisons dangereuses, mais pas que, de la Nouvelle Héloïse aussi, le Pamela de Richardson m'a aussi inspiré. Et puis alors, pour la toute la séquence finale de Marianne Médicis abandonnée par son amoureux, le page du duc, ça, le modèle, c'était les lettres portugaises de Guy Hirargue. Alors là, c'est, voilà, vous voyez, c'est 17e, donc c'est-à-dire que un roman historique n'est pas que de l'histoire. C'est-à-dire qu'au niveau au niveau stylistique, c'est une composition qui n'est pas juste le décalque fidèle de la langue du XVIe siècle, parce que tout écrit en moyen français, ça aurait été difficile pour le lecteur d'aujourd'hui.
Ce qui est certain, c'est que le résultat, c'est du plaisir. Merci beaucoup, Laurent Binet. Perspective, publié chez Grasset, le prix du roman historique des rendez-vous de l'histoire de Blois. Merci d'avoir été aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Et puis, merci pour ce roman, Laurent Binet.
Merci à vous.
Et nous retrouvons tout de suite Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi Selma Lagerlöf a-t-elle été la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature? Peut-être avez-vous vu, quand vous étiez enfant, le merveilleux voyage de Nils Holgersson au pays des oies sauvages, un dessin animé japonais diffusé sous forme de série qui a eu beaucoup de succès en France dans les années 1980. Il raconte l'histoire d'un préadolescent de 14 ans qui vit avec ses parents dans le sud de la Suède. Pour le punir d'avoir maltraité les animaux de la ferme, un sortilège le transforme en petit lutin, pas plus grand qu'une souris. Nils est adopté par des oies sauvages qui l'emmènent avec elles dans un long périple à travers toutes les provinces historiques de la Suède. Il apprend ainsi la tolérance et le respect des autres, ce qui lui permettra au bout du voyage de retrouver sa taille normale. Cette série est tirée d'un ouvrage de Selma Lagerlöf, paru en 1906-1907, qui est devenu rapidement un classique de la littérature pour la jeunesse en Suède, à tel point que Nils Holgersson est l'un des seuls personnages de dessin animé que l'on trouve aujourd'hui encore sur un billet de banque. Bien qu'elle ait publié plusieurs autres romans auparavant, c'est cette œuvre-là qui a rendu son autrice mondialement célèbre. Notoriété qui lui a valu d'obtenir le prix Nobel de littérature en 1909. Comme cela arrive très souvent, on constate pourtant un décalage entre les motivations de Selma Lagerlöf quand elle a rédigé ce livre et sa réception au sein du grand public. Née en 1858, elle avait été institutrice pendant 10 ans, avant de devenir une romancière très populaire en Suède. C'est cette double compétence qui incita les enseignants suédois à s'adresser à elle pour rédiger un nouveau manuel conçu comme une introduction à la géographie du pays. Comme la lecture à haute voix était une méthode encore largement pratiquée en Suède au début du XXe siècle, pour que le récit coïncide avec la durée d'une année scolaire, Selma Lagerlöf rédigea un ouvrage de 700 pages. Étant donné qu'il était impossible que des enfants de l'école primaire lisent à haute voix un texte aussi volumineux, l'ouvrage fut critiqué par les enseignants lors de sa parution, mais il connut d'emblée le succès dans le grand public. Pour expliquer l'impact de cet ouvrage, on ne peut donc pas invoquer uniquement des raisons pédagogiques. Il faut prendre aussi en compte les intentions civiques de Lagerlöf, car elle voulait conforter le sentiment national suédois en transmettant aux lecteurs l'amour de leur pays. Mais à la différence des manuels scolaires de ce genre, publiés en France au début de la Troisième République, comme « Le Tour de France par deux enfants », le récit des aventures de Nils Holgersson ne s'inscrit pas dans un contexte marqué par des rivalités nationales aussi intenses que dans le cas franco-allemand. L'ouvrage donne aux enfants l'envie d'œuvrer pour leur pays et pour leurs concitoyens, mais il ne cherche pas à leur inculquer un sentiment de supériorité par rapport aux autres nations. De plus, si le livre parle concrètement de la Suède, l'histoire de Nils est universelle. C'est une sorte de roman d'apprentissage racontant les aventures d'un adolescent qui devient adulte en découvrant l'importance de l'amour et de la solidarité.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Timothée Hubert. Une émission préparée de haute main par Jeanne Delecroix, Toscane Vudet, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Mayouen Guizhou. Merci à l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel et à la Discothèque de Radio France. Ces émissions et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France où vous pouvez trouver aussi le pourquoi de comment de Gérard Noiriel.